Aujourd'hui, pour ma première émission Angle Mort, je vous propose de parler de démocratie antique. Mais qui de mieux pour parler de ce sujet que Monsieur Thur, professeur de latin ici au lycée français. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Déborah. Donc effectivement, je suis professeur de latin au lycée depuis une dizaine d'années. J'ai relevé le défi de répondre à ta question. Il s'avère que les représentations que l'on a sur l'Antiquité ne sont pas toujours très justes. Et parler de démocratie, c'est une manière de recentrer les choses et peut-être de les corriger.
Je me rappelle avoir étudié ce sujet au collège et je m'étais dit que c'était un peu le modèle idéal pour une démocratie parce que ça permettait une démocratie directe, c'est-à-dire que le peuple votait directement. Et au fil de mes études, je me suis penchée sur ce sujet, j'ai essayé de m'informer et je me suis rendu compte que bon, ce modèle n'était pas si parfait que ça et qu'il admettait beaucoup d'angle mort. Alors je propose qu'on en parle à nos auditeurs et qu'on essaye d'expliquer le fonctionnement de la démocratie antique.
Alors même peut-être ça vaut la peine de s'appuyer sur l'étymologie du mot démocratie qui vient du grec démos, le peuple, et de kratos, kratia, le pouvoir. Donc ça revient à dire que dans une démocratie, le pouvoir revient au peuple. Mais dans le berceau de la démocratie, c'est-à-dire en Grèce, la démocratie correspond à un régime politique où les décisions sont prises par tous les citoyens mâles au vote majoritaire. Et c'est à la démocratie athénienne du 5e siècle qu'elle va se développer le plus, en tout cas qu'elle sera à son apogée.
Et donc, comment est-ce que les décisions elles étaient prises concrètement ?
Alors, à Athènes, toutes les décisions politiques étaient prises au vote majoritaire d'une assemblée directe et non représentative des citoyens, qu'on appelait l'ecclésia, et les affaires étaient préparées par un conseil.
La boulée,
exactement.
Ça, je m'en souviens.
Alors, ces décisions étaient exécutées par ce même conseil et des fonctionnaires étaient généralement tirés au sort.
D'accord. Et donc, qui détient le pouvoir de voter ?
Alors, en réalité, ce sont bien les citoyens qui ont ce pouvoir de voter, mais à Rome, les choses sont bien différentes. Sous la République à Rome, le rôle politique du citoyen était déterminé par sa fortune. La République, donc c'est un des moments de l'histoire de Rome, elle dura de 510 avant Jésus-Christ, qui marque en réalité la fin de la royauté et son début, jusqu'à environ 30 avant Jésus-Christ, la mort de Marc-Antoine. Et tout citoyen mâle adulte avait le droit de prendre part à la vie politique, mais pas exactement de la même manière.
Et donc ce système, il a été mis en place pour que le pouvoir ne réside pas entre les mains uniquement d'un petit groupe, qu'on peut aussi appeler oligarchie, et ce serait aussi pour éviter tout retour à la monarchie, à la tyrannie qui régnait en Grèce et à l'Empire romain jusqu'ici, comme dans Gladiator en gros. Mais moi je doute que l'oligarchie n'ait vraiment été évitée, non ?
Eh oui. Tu as raison. L'idée qu'on se fait de la démocratie antique comme étant la première démocratie directe est en réalité un peu biaisée. Alors, dire que la République est une démocratie, pourquoi pas, si on considère que toutes les lois doivent être approuvées par une assemblée de citoyens. Mais en fait, la République est dirigée par un petit groupe de gens, en réalité des citoyens, plus précisément des patriciens, c'est-à-dire des hommes riches, appartenant à la noblesse. Donc, en réalité, ce pouvoir appartient aux familles nobles qui dirigent Rome, à une bonne cinquantaine de familles. Et forcément, elles détiennent régulièrement toutes les magistratures.
Donc, si on récapitule, on a une idée d'un fonctionnement politique qui donne le pouvoir au peuple, qu'on appelle la démocratie, mais qui en réalité réside entre les mains que d'une très petite partie de la population. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer comment le vote fonctionne exactement ?
Donc, à Rome, lors des élections et pour toutes les questions qui sont soumises aux assemblées, le vote s'effectue par groupe et non par tête. Le vote du groupe est celui de la majorité. Donc, les groupes, tribus, à Athènes ou Centurie, des riches et puissants s'expriment les premiers, et ceux, les groupes qui rassemblent les pauvres, votent en dernier. Et comme le résultat est proclamé dès que la majorité simple est atteinte, la plupart du temps, les derniers groupes n'ont même pas l'occasion de voter.
Le vote a lieu uniquement en ville, non ? Ce qui veut dire que ceux qui habitent à la campagne ne peuvent pas y participer. En plus de ça, les assemblées ne sont pas délibératives, ce qui veut dire qu'on n'y débat pas, et on ne peut qu'adopter ou rejeter des décisions qui ont été prises ailleurs.
Alors effectivement, il y a des différences entre Rome et les cités qui ne sont pas Rome. Même si ces autres cités étaient organisées un peu à l'image de Rome. Mais bon, pour revenir à l'essentiel de notre sujet, c'est-à-dire comment ça se passe à Rome. À Rome, il y a vraiment une assemblée qui débat, même si les comices pouvaient débattre aussi. En tout cas, celle qui retient notre attention, c'est le Sénat. Et ce Sénat prend des décisions dans tous les domaines, en politique extérieure, aussi bien qu'intérieure. Et on est membre du Sénat à vie, et on fait partie, en étant sénateur, des patriciens, du patriciat, c'est-à-dire des pères de la patrie, à l'origine même des descendants, des compagnons de Romulus, donc on reste entre soi. En plus, un simple citoyen n'a pas le droit de prendre la parole devant une assemblée sans l'autorisation des magistrats et des tribuns qui seuls ont le pouvoir de convoquer une assemblée publique et d'y débattre. Les membres de l'assemblée peuvent tout au plus manifester leur opinion de façon non officielle, par exemple par leurs cris.
L'enfer, le bruit qu'il devait y avoir. Et aujourd'hui, on a hérité d'un petit peu de cette démocratie. Un peuple qui vote pour des représentants et des citoyens, les députés, qui débattent sur les lois à l'Assemblée. Pour finir, angle mort, c'est toujours plus de questions. Alors je vous propose de réfléchir à cette question. Est-ce vraiment la démocratie si uniquement une toute petite partie du peuple peut voter ? Merci d'être venu et de nous avoir tant appris. J'espère vous recevoir une autre fois, peut-être, qui sait. Angle mort, c'est déjà fini, et je suis sûre que vous vous sentez plus intelligent après avoir écouté notre émission, parce que moi, oui. Et allez découvrir plus d'émissions sur www.radioalfb.net.
Donc, comme Déborah m'a demandé d'apporter avec moi une chanson, je vous propose d'écouter L'invitation au voyage, le poème de Baudelaire, mis en voix et en musique par François Atlas, le chanteur de François Atlas et The Atlas Mountain, et Juliette Armanet, la chanteuse française que vous connaissez tous. J'espère que vous aurez un grand plaisir à découvrir cette version. Merci.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant au travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Décoreraient notre chambre les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'amant secret, sa douce langue natale. Sur ces canaux, dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Volupté.